Nous lisons dans Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc je recommence. Le verset 9 est très important. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Un pharisien, c'était un dignitaire religieux. Il y a une secte qu'on appelait la secte des pharisiens. C'était composé de gens qui étaient en apparence les plus zélés pour servir Dieu à l'époque, donc au temps de Jésus. C'était des gens en apparence qui tenaient à l'honneur de Dieu et qui se battaient pour ça, voire même physiquement parfois, parce qu'ils avaient toute une garde armée. Et c'est des gens aussi qui travaillaient à gérer en quelque sorte le peuple juif. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, c'était les collecteurs d'impôts. Donc vous savez que les gens qui collectent les taxes ont l'habitude de rajouter un peu pour mettre dans leur poche. Et les publicains, donc les collecteurs d'impôts, étaient en général mal vus, étaient en général mal considérés, parce qu'ils représentaient déjà le pouvoir colonial, parce que c'était les Romains qui avaient colonisé cette partie-là. Et les publicains, quand ils recevaient l'argent des taxes, ils les rendaient, ils les remettaient aux Romains. Donc, ils étaient déjà considérés comme des collabos. Voilà, donc des gens qui prennent l'argent auprès du peuple pour donner à l'étranger qui domine la nation. Et deuxièmement, ils surtaxaient pour voler le peuple. Donc, ils étaient mal vus. Et on connaît un publicain célèbre dans la Bible, il s'agit de Zachée. Quand Jésus allait chez Zachée, les gens avaient mal pris ça. Ils disaient, mais il va chez un homme pécheur, parce que les publicains étaient mal vus. Et verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et se frapper la poitrine dans la tradition orientale, c'est une expression de tristesse forte, immense, de quelqu'un qui est dépassé par la douleur, par la tristesse. Il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. En quelque sorte, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Écoutons la phrase de Jésus au verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Donc avant que je vienne, le frère qui était avant moi, il a parlé du fait que Dieu se servait des petits-enfants. Il a parlé du fait que nous devions avoir une attitude de petit-enfant avant d'écouter la parole. C'est l'Esprit Saint qui conduit. Et parce que le thème de ce matin, c'est comment se présenter devant Dieu. Voilà. Comment se présenter devant Dieu. Il y a deux personnes qui sont venues se présenter devant Dieu. Il y a la première personne, comme il est écrit, était persuadé d'être juste. Et c'est écrit au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Mais quelles sont les personnes qui se persuadent d'être justes? Ce sont les personnes qui sont les plus, en général, hein, je veux dire en général, c'est les gens qui sont les plus actifs dans les choses religieuses. C'est pourquoi Jésus, dans sa parabole, il donne deux catégories de personnes. Une qui est très active dans les choses religieuses. Et quand je dis les choses religieuses, il s'agit des façons de faire, des activités, des gens qui sont tout le temps dans les activités concernant les choses de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est contre ça? Non. Sauf que Dieu veut que même si nous sommes à 100% dans les activités concernant les choses de Dieu, il veut que nos cœurs soient des cœurs qui le laissent lui agir totalement. Ce n'est pas le fait d'être tout le temps dans les activités concernant les choses de Dieu qui comptent, c'est l'attitude. Donc comment tu te présentes devant Dieu, c'est ça qui compte. Que l'on soit tout le temps dans les choses de Dieu, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction, parce qu'on est tout le temps dans sa présence, comme Josué était tout le temps, même Moïse parti, Josué est resté dans la tente d'assignation. On a vu ce que Josué est devenu par la suite. Mais il ne suffit pas d'être dans les choses de Dieu. L'attitude est très importante. Comment tu viens dans la présence de Dieu? Il est écrit, la parabole a été faite pour les gens qui se persuadaient d'être justes. Et un exemple a été donné, c'est l'exemple des gens qui sont les plus actifs dans les choses de Dieu. C'est le premier exemple, ce n'est pas le seul, mais c'est l'exemple le plus simple. Parce que qui est juste, mais c'est celui que Dieu approuve. Comment on peut le savoir? C'est souvent par rapport aux choses qu'on fait pour Dieu, on nous retrouve. On se dit, s'il est tout le temps là, c'est que Dieu l'approuve. Mais cette parabole nous dit non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tout le temps dans les choses de Dieu que Dieu l'approuve. Dieu approuve en fonction de l'attitude du cœur. Qu'est-ce qu'on vient dire à Dieu? Comment nous venons à Dieu? C'est ça qui fait que Dieu approuve. C'est écrit, approuve ou non, c'est écrit, quiconque va s'élever sera abaissé. Quiconque va accepter de s'humilier, Dieu lui fera grâce. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui estiment que puisqu'ils prient régulièrement, ils lisent régulièrement la parole, ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Donc ils sont approuvés de Dieu. Et quand ils viennent à Dieu, ils viennent dans une attitude de suffisance. Je ne me reproche rien, je viens juste, bon, puisque bon, on est en phase, Dieu. Je suis bien, je suis correct. Toi aussi, Dieu, tu es correct. Donc, on est amis, on est en phase. Non. Jésus dit, cet homme parti sans être justifié, bien aimé, ça fait mal. Quelqu'un qui passe son temps à jeûner deux fois par semaine, à payer sa dîme, il est réglo. Donc, aux yeux des humains, il était en règle. Mais Dieu dit, mais tu n'es pas justifié. Parce que la Bible est claire. Tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas les actes, les comportements de quelqu'un qui vont faire qu'il soit approuvé de Dieu. Mais c'est l'attitude, c'est le fait qu'on vienne s'abandonner à Dieu qui compte. C'est le fait qu'on vienne crier au salut de Dieu, dire « Seigneur, sauve-moi !» C'est ça qui compte pour Dieu. Mais tous ceux qui veulent, qui viennent avec leur propre justice, prétextant dans leur raisonnement, par leur raisonnement, le fait qu'ils sont réguliers dans les choses de Dieu, ils prient, ils chantent, ils prêchent, ils ont tel titre, diacre, diaconesse, ce sont des choses qui comptent peu pour Dieu. Ce sont des choses secondaires. Ce qui est primordial, c'est avec quelle attitude tu viens devant le Seigneur. Mais c'est vrai que qui sont les gens qui sont les plus piégés par cette erreur-là? C'est les gens qui viennent, qui sont pleinement engagés dans les choses de Dieu. Ils sont souvent piégés par le raisonnement suivant. Puisque je viens souvent, puisque je fais souvent, Dieu m'approuve, je suis correct. Ils sont piégés, eux, le plus souvent. C'est pourquoi Jésus cite cet exemple. Mais ils ne sont pas les seuls à être piégés. Mais c'est eux qui ont cette grande probabilité d'être piégés, parce que considérant qu'ils sont dans les choses de Dieu, considérant qu'ils sont dans les activités de choses liées à la religion, donc finalement, ils sont en accord avec Dieu. Mais il est écrit, nous avons lu ensemble, ces gens-là, cette personne-là n'a pas été justifiée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. C'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est écrit dans Romains 3, 23. Tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés. Donc, on est justifié. Vous savez, justifié, ce n'est pas ce qui se passe dans les tribunaux humains. Dans les tribunaux humains, l'avocat, quand vous êtes accusé, cherche à vous innocenter. Donc, il veut prouver que vous n'avez rien fait. Il veut prouver que vous n'êtes pas le coupable. Et quand il a bien fait son travail, que ce soit dans le mensonge ou dans la vérité, les jurés sont convaincus que vous êtes innocent. Ils vous relâchent. Ou bien s'ils ont le doute, ils vous relâchent. Mais la leçon, c'est que vous êtes acquitté parce que considéré comme non coupable. Mais Dieu, Jésus, lui, il ne veut pas nous déclarer innocents parce qu'on n'a rien fait. Il nous justifie. C'est-à-dire qu'il nous présente comme des coupables, mais que lui, il justifie. On va arriver à ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, quand on appelle évangile bonne nouvelle, c'est à cause de ça. Quand vous employez un avocat, l'avocat doit chercher les moyens de prouver que vous n'avez pas fait le mal dont on vous accuse. Mais Jésus, lui, ne va pas faire ça. Jésus dit, oui, il a tué, il a volé, il a menti, mais moi, j'ai été crucifié pour lui à la croix. Donc, il est considéré, puisqu'il croit en moi, il est considéré comme juste. C'est ce que ça veut dire, justifié. Tu es coupable, mais Dieu te déclare juste à cause de l'œuvre de son Fils à la croix. On ne peut pas être justifié par ce que tu fais. Le verset 14 est clair. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. L'autre n'a pas été justifié parce qu'il est venu réclamer justice en brandissant ses œuvres. Je vais tout le temps, je paye ma dîme, je jeûne deux fois, je fais ceci, je prie. Il y en a qui prient toute la nuit même. Mais Dieu, quand tu te présentes à lui, qui est le juge? C'est Dieu. Donc tu dois attendre que lui dise un mot sur toi. Mais quand toi déjà tu te présentes devant lui en disant « c'est bon, moi je fais ce qu'il faut », en quelque sorte tu as pris sa place, c'est déjà le premier péché que tu as commis. Tu as pris sa place. est souvent ce genre de personnes. Ils se persuadent qu'ils sont justes parce qu'ils se comparent aux autres. Nous lisons, relisons. Qu'est-ce qui lui donne tant de force? Il dit, « Ô Dieu, verset 11, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Donc, il a pris le reste des hommes comme unité de comparaison. Et c'est ça qui va amener beaucoup de gens en enfer. C'est comme si quelqu'un se présente au bureau, au rectorat, il dit, ben, je vais chercher mon diplôme parce que je suis plus fort qu'un tel en mathématiques, plus fort que tel, tel. Mais les gens lui diront, mais non, monsieur, attendez que nos professeurs vérifient vos notes à vous pour savoir si vous dépassez la moyenne. Ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que Gilbert, plus intelligent que Germain, plus intelligent qu'un autre, que vous avez mieux fait qu'eux, que vous réussissez, que vous obtenez les diplômes. C'est nous qui décidons si vous êtes habilité à obtenir le diplôme. C'est nous qui devons vérifier ça. Et beaucoup viennent déjà avec leur propre assurance. C'est bon. Et quand ils viennent même dans les réunions de prière, ils viennent par activisme. Ou bien ils viennent parce qu'ils considèrent que oui, c'est notre boulot, nous sommes des chrétiens, c'est ce que je dois faire. Mais ils ne viennent pas en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y en a même qui viennent en disant, Seigneur, tu as besoin de moi. Alors forme-moi pour te servir. Il y en a qui viennent même comme ça. Puisque tu as besoin de moi, je suis là. Bah, non. Le publicain disait, ne regardait même pas le ciel et il se tenait à distance en disant, je suis un homme pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. Comment tu te présentes devant Dieu? Beaucoup sont dans cette erreur-là. Parce que c'est des religieux. Ils estiment que leur travail, c'est ça qui va les sauver. Ce n'est pas ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. C'est écrit, ce n'est pas par le travail de quelqu'un. Parce que si c'était ainsi, les gens vont se glorifier. Mais en se glorifiant, ils sont dans le péché. Ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alors le salut ne s'obtient pas par tout ce que tu fais. Et c'est ça qui a amené beaucoup de gens en enfer. Il y a dans certains pays, comme les États-Unis, comme beaucoup de pays d'Afrique, où les gens mènent une double vie. D'un côté, ils prient, ils chantent pour Dieu. De l'autre côté, ils font la même chose pour le monde. Ils chantent dans le monde, ils imitent les gens du monde. Leur consolation, c'est quoi? Ce que j'ai donné, ce qu'il faut comme argent au pasteur ou à l'église. Leur consolation, c'est quoi? Mais chaque dimanche, je vais à l'église. Leur consolation, c'est quoi? Avant de manger, je prie. Mais tout ça, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui te sauve, c'est l'attitude avec laquelle devant Dieu, tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis perdu, prends ma vie. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. C'est ça qui sauve. Quand tu offres ta vie au Seigneur, ce n'est pas pour tout ce que tu as fait. C'est pourquoi quand Dieu appelle de telles personnes à aller plus loin, ils disent, non, mais j'ai fait déjà suffisamment ce qu'il faut. J'ai fait mieux que tous les autres. Parce que leur instrument de comparaison, c'est les autres. Je fais mieux qu'un tel. Je fais mieux qu'une telle personne. Et parfois, même s'ils ne font pas mieux qu'un tel dans le sens des activités, ils vont dire, un tel fait plus d'activités que moi, mais quand même, il a un problème de colère. Il a un problème ceci, donc je suis quand même meilleur que lui. Comment, Seigneur, tu peux me demander encore d'aller plus loin? C'est les religieux. Ils parlent trop, mais ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur. quand le Seigneur va dire, allez, on y va plus loin, il dit, mais non, je suis déjà loin là. Parce que je fais plus que les autres, plus que beaucoup d'autres. Toujours, tout est dans Luc 18, tout ce qu'on va dire aujourd'hui dans Luc 18, en grande partie. On a au verset 18, il est écrit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ne s'agit pas que des richesses financières. Il s'agit de richesses aussi, l'honneur, l'orgueil, la confiance en soi-même, la logique selon laquelle on est intelligent. On sait ce qu'on a à faire. Beaucoup de gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne cherchent pas que Dieu les conduise, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont fait une école biblique, ils ont fait des enseignements de base. Ils savent. Il y en a qui disent, moi, mon grand frère, c'est un pasteur. J'ai toujours vécu dans un milieu chrétien. Je sais ce que j'ai à faire. Dieu dit, tu n'es pas justifié. C'est celui qui cherche Dieu qui est justifié. Il a dit dans Jérémie 29, si vous cherchez vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. On ne trouve pas Dieu parce qu'on a enregistré beaucoup de versets bibliques dans la tête, parce qu'on a été longtemps dans les choses de Dieu, dans l'évangélisation, parce qu'on est intelligent, on a mémorisé toute la Bible. Ce n'est pas ça. Et beaucoup sont dans cette attitude d'orgueil. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et il y en a, la conséquence, c'est que beaucoup n'ont même pas d'autorité. Ils se dirigent eux-mêmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et ils ne respectent plus l'ordre que Dieu a établi, qu'il y ait des autorités qui conduisent d'autres personnes. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Et il y en a parfois qui restent dans leur maison, qui ne vont plus prier avec d'autres frères et sœurs, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a plus la vraie recherche de Dieu. Où le publicain s'avançait pour dire, « Seigneur, aie pitié de moi. Je me livre à toi. » Il est écrit, celui qui se persuadait là, de savoir ce qu'il avait à faire, il n'a pas été justifié. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'il est écrit qu'il y aura des grincements de dents au dernier jour, des pleurs et des grincements de dents, parce que beaucoup seront surpris de ne pas aller au ciel. Beaucoup. Il est écrit, les prostituées vous devanceront. Parce que la prostituée, hein, elle vient comme le publicain en disant, Seigneur, mon péché est trop grave. Fais quelque chose pour moi. Sauve-moi. Mais le grand chrétien, celui qui a rencontré certains grands hommes de Dieu, celui qui pense qu'il a tout compris, lui, quand il vient dans une réunion de prière, il vient parce qu'il faut venir, parce que bon, c'est ça qu'on doit faire. Il ne vient pas parce qu'il a soif de Dieu. Il n'a pas du tout soif de Dieu. C'est son activité. Il ne vient pas parce que Dieu doit l'aider. Il vient pour aider Dieu. Il vient parce que ça prouve qu'il est chrétien. Non. Chaque réunion, chaque moment de prière, même si on doit prier avant de manger, on doit chercher Dieu. Dieu, merci vraiment pour cette nourriture. Ça ne doit pas être une formule religieuse. Beaucoup, comme ils n'aiment pas être empoisonnés, nous sanctifions, mais oui, mais il n'a même pas remercié Dieu, il sanctifie seulement la nourriture. Reconnais aussi que Dieu t'a donné ça. Ce n'est pas ton salaire qui t'a donné ça, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est l'attitude avec laquelle nous entrons dans la relation avec Dieu qui compte. Tu viens comment? C'est ça qui compte. Il y en a qui peuvent venir dans un groupe, dans une assemblée, dans un groupe en disant « Je n'aime pas voir la tête de telle personne. » Mais il vient prier et puis dit « La tête de ce frère-là ou de cette sœur-là, moi, je n'aime pas voir ça. » Mais qu'est-ce que tu viens faire dans un groupe où les gens prient avec de telles dispositions de cœur? Ou je n'aime pas écouter un tel quand il dirige le chant ou bien il prêche. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens chercher Dieu ou tu viens régler des comptes? C'est ça la question. Il est écrit, il partit non justifié, bien-aimé. Le dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y en a qui savent ce qu'ils ont à faire. Ben, Jésus dit, vous là qui savez ce que vous avez à faire, eh bien, c'est bon, sauvez-vous vous-même. Ce n'est pas moi qui vais vous sauver. Or, il est écrit dans Jean 14, 6, on ne peut aller au Père que par Jésus. Si Jésus ne te sauve pas, qui va te sauver? Tu as beau être le meilleur chrétien aux yeux des hommes, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est écrit clairement. Le pharisien partit sans être justifié. Sans être justifié. Voilà, vous savez, la sentence. Il y a un petit marteau que le juge a, il tape, boum. Voilà la sentence. Il n'est pas justifié. Comparaison avec les autres. Journalisme. On microscope, on cherche les erreurs des autres. Pour se sentir bien, tu n'es pas justifié. Vous savez, quand on a de l'âge, hein, on peut raconter des choses. On a connu des gens qui nous ont encadrés, qui nous ont prêché la parole. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Parce qu'ils venaient avec leur propre justice. Je prêche, je chante, je prie. Ils cherchaient pas Jésus. Ils étaient devenus propres justes, comme on dit. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ne venaient pas comme un enfant. C'est écrit dans le passage qui suit. Il faut venir comme un enfant. Il faut savoir que dans la Bible, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aussi, les séparations des paragraphes. C'est la même idée. Donc quand vous prenez le chapitre 18, c'est la même idée. C'est la même idée. Quand vous lisez donc le texte concernant le publicain et le pharisien, ça continue. C'est la même idée de l'humiliation. Même le texte d'avant, la veuve qui prie, qui supplie, c'est le même niveau d'humiliation. Donc ça dit que quelqu'un qui croit en Dieu va supplier, va aller jusqu'au bout pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour chercher le salut de Dieu. Il ne va pas s'arrêter. Et le jeune homme riche, quand on lui a dit « Vends tout tes biens et suis-moi », il a dit « Ah mais non, moi j'ai fait déjà beaucoup. Je vais tout le temps à l'église. Mais quand Dieu dit maintenant « Allez, suis-moi en Chine », ah mais non. En Chine, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas la CMU. En Chine, il n'y a pas ceci. En Chine, il n'y a pas François Hollande. Non, mais Dieu dit, mais non, il y a d'autres présidents là-bas. Mais non, 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 moi, je préfère ici. Et puis, moi, je vais tout le temps à l'église. Je fais ceci, je fais cela. Mes parents aiment Dieu. Mais non, ce n'est pas ça qui va te justifier. La grande question, c'est est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? C'est ça la grande question. Comment tu viens vers Dieu? Ce n'est pas parce que tu es pasteur. C'est comment tu cherches Dieu. Comment tu vis avec Dieu? Est-ce que Dieu est juste un complément que tu rajoutes dans ta vie où il est tout pour toi? Mais s'il n'est pas tout pour toi, tu n'es pas justifié. Parce que la justification, ça demande un remplacement total. Au fait, Jésus a pris notre place. Mais s'il n'a pris que ta jambe, le reste va aller où? Donc il faut qu'il prenne tout pour que ton salut soit total. Beaucoup ne sont pas justifiés. Ils sont dans la religion, comme cet homme-là. Dans la religion. Le jeune homme riche était dans la religion, même s'il était bien intentionné. Hein? Attention. Mais l'ignorance, il ne savait pas à qui il avait affaire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Même si apparemment il ne voulait pas faire le mal, il faisait que le bien, il ne volait pas. Il a dit, j'ai appliqué tout ça. Je ne vole pas, je ne mens pas, je suis correct. Mais ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, hein, c'est quand on livre sa vie à Dieu. Parce que c'est ça, quand il prend ça, il sauve ça. Mais si tu ne livres pas, même si tu veux passer pour être correct aux yeux des humains, mais est-ce que tu es correct aux yeux de Dieu? Non. Parce que la Bible est claire, il n'y a point de juste. Dans Romains 3:10, c'est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On a tous un problème, on a le péché en nous. Et on manifeste ce péché d'une manière ou d'une autre. Mais nos raisonnements peuvent nous tromper, nous faire croire que nous, on est plus bons que les autres. Et à partir de là, nous amener à croire qu'on est justifié parce qu'on est plus bon en apparence que les autres. Mais ce n'est pas les autres qui nous jugent, c'est Dieu qui nous juge. Ce n'est pas notre raisonnement qui nous juge, c'est la parole de Dieu qui nous juge. Et Dieu va torcher, va mettre la lumière sur ce que nous, on cache, ce que notre inconscient cache. Il va mettre la lumière là-dessus et on va se retrouver pécheurs alors qu'on se croyait juste. C'est pourquoi nous devons avoir l'attitude de David dans le psaume 139. Il dit, Dieu, sonde-moi, c'est-à-dire fouille-moi, regarde en l'intérieur de moi s'il y a de mauvaises choses. Voilà comment David s'approchait de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. David n'approchait pas de Dieu en disant, je sais tout, je sais ce que j'ai à faire. Vous savez, il y a un musicien, un grand musicien congolais qui est mort avant-hier. Récemment, il a été dans une église témoigner. Il a dit qu'il savait ce qu'il avait à faire, qu'il considérait, parce que c'était la deuxième hospitalisation. À la première hospitalisation, il dit qu'il a été sauvé par Dieu, par miracle. Maintenant, on lui a dit, mais donne ta vie à Dieu. Il a dit, je sais ce que j'ai à faire. Je fais un dernier album dans le monde. Après ce dernier album, je me consacre totalement à Dieu. Mais il n'a pas eu le temps de faire le dernier album. Il est mort. Pour aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Beaucoup savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Aller à l'église régulièrement, faire ceci, non. Un vrai cherche toujours Dieu. Beaucoup de jeunes qui sont là, il y en a qui ont 8 ans, qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, et ils ne veulent pas donner leur cœur à Dieu. Ils savent, vers 16 ans, je vais me décider, je vais me faire baptiser. De toute façon, l'église est là, non? Tu ne sais pas. Dans 2 ans, il peut y avoir l'enlèvement. Tu reviens, tu ne nous trouves plus. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Dans 2 ans, il peut y avoir des lois qui ferment toutes les églises. On ne sait pas. Il est écrit, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y en a qui disent, je sais ce que j'ai à faire. Pour le moment, je suis jeune. À 30 ans, je me donnerai. Est-ce que tu atteindras 30 ans? Ce monsieur s'était dit, j'ai bien compris que c'est Dieu qui m'a sauvé. Il a dit lui-même, j'ai bien compris, j'étais mourant, j'allais vers la mort, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il a témoigné. On lui dit, mais alors, conséquence, attendez s'il vous plaît, je fais un dernier album dans le monde, ensuite je m'engage à servir Dieu à 100%. Ah. C'est ça le malheur, quand on sait ce qu'on a à faire. Nous avons beaucoup parlé de religieux, des gens qui connaissent Dieu. Nous allons parler aussi d'autres personnes. Il n'y a pas que les gens qui connaissent Dieu qui savent ce qu'ils ont à faire. L'homme, en général, sait ce qu'il a à faire dans son orgueil. Même celui qui ne croit pas en Dieu, il y en a qui se persuadent d'être justes parce que leur raisonnement leur dit qu'ils sont justes. Mais même dans le monde, ce n'est pas ton raisonnement qui va te défendre dans un tribunal. C'est ta conformité au code pénal ou au code civil qui va te rendre juste. Ce n'est pas ton raisonnement. Vous savez, il y a des moments même que tu es juste, mais les éléments sont contre toi. Malgré le fait que tu es innocent, tu es condamné parce que les éléments sont contre toi. Donc ce n'est pas ton raisonnement qui te sauve. C'est le fait que les éléments soient pour ou contre toi. Or, les éléments qui fixent ça, c'est Dieu lui-même. Et beaucoup se disent, oh, les chrétiens eux-mêmes font des erreurs. Il y en a qui sont mariés à des chrétiens et eux-mêmes ne le sont pas. Ils disent, oh, mais elle se dit chrétienne, mais elle fait ça. Il se dit chrétien, mais il fait ça. Je ne vois pas la différence avec moi. Non, la grande différence, c'est que ce chrétien-là que tu critiques, lui, il s'est estimé faible. C'est pourquoi il est parti voir Jésus, pour que Jésus le sauve. On n'est pas sauvé parce qu'on est parfait. On est sauvé parce qu'on a livré son sort à Jésus. Parce qu'on a dit, je ne peux pas me sauver moi-même. Jésus, aide-moi. Et un jour, ce chrétien-là sera au ciel. Mais toi qui le critiques, tu seras en enfer parce que tu as refusé Jésus-Christ. Tu n'es pas justifié. On est justifié par Jésus. Et beaucoup se persuadent d'être justes. Parce que leur intelligence dit, mais je ne fais rien de mal. Mais qui fixe qui est mal, qui n'est pas mal? C'est Dieu, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton intelligence. Vous savez que, par exemple, au Maroc, pendant le repas même, vous allez entendre quelqu'un rôter devant l'assiette. Et là-bas, c'est considéré comme quelque chose de positif. Mais ici, dès que nous, on rôte à la maison, notre dernier nous dit « Pardon !» Donc, il peut être loin, il entend seulement quelqu'un rôter « Pardon !» On finit par dire « Pardon, Josué !» Il dit « Pas pardon, moi, pardon !» Mais, c'est parce qu'en France, c'est considéré comme une erreur. Mais au Maroc, quand tu rôtes, ça veut dire que le repas était bon. Alors donc, il faut pas te... Tu vas être là, avec ta propre justice, tu viens du Maroc, tu vas rôter en public. Oh, les gens disent, ah voilà, il est sale. Donc, ce n'est pas ta justice qui compte, c'est la justice de celui qui règne qui compte. Et lui, Dieu, tu as besoin que lui te dise si il est d'accord avec toi. Ce n'est pas toi qui vas fixer les règles. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Pour le savoir, il faut lire la Bible. Il ne suffit pas de dire, bon, le pasteur, il exagère. Non, mais lis toi-même la Bible. Parle toi-même à Dieu. Nous avons reçu des gens qui sont de l'islam, mais qui sont dépassés par leurs problèmes, qui cherchent la solution. On leur a dit, nous ne voulons pas vous imposer de vous convertir à Jésus. Mais nous vous disons, cherchez Dieu vous-même. Parlez à Dieu, dites à Dieu, quel est notre sort? Ne vous contentez pas de ce que vous avez entendu autrefois. Vous-même, cherchez Dieu. C'est ce qu'un homme doit faire. Que tu poses la question, mais Dieu, est-ce si tu existes, révèle-toi à moi. Dieu va te se révéler à toi parce qu'il existe. Attention à se persuader d'être juste. À considérer qu'on sait ce qu'on a à faire, on a encore le temps. Non. Il faut venir humblement devant Dieu. Parce que si on doit comparer entre toi et le jeune homme qui n'a pas été justifié, le monsieur riche là, je pense qu'en apparence, lui, il paraît plus bon que tous ici. Nous tous qui sommes ici, ce monsieur-là, il dit que j'accomplissais tout ça. Je n'ai pas d'erreur de ce côté-là, mais il n'a pas été justifié. Parce que Dieu peut toujours lui prouver qu'il a un péché, même s'il ne voit pas. Il ne s'est pas livré à Jésus pour vendre tous ses biens et le suivre. Parce qu'il estimait qu'il faisait déjà du bien suffisamment comme cela. Et beaucoup sont dans cette fausse logique. Ils ne veulent pas lâcher prise devant le Seigneur parce qu'ils estiment qu'ils font déjà ce qu'il faut. C'est une erreur. Vous ne cherchez pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Cherche le Seigneur. Alors, quelle est l'attitude que Dieu attend? C'est l'attitude du péager. Seigneur, je suis dépassé. Aide-moi. Moi, je veux que de toi, Seigneur. Le monde m'a pourri. Le monde m'a pollué. Je veux de toi. Je me livre à toi. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Vous savez, quand on lit ce texte, on dit, mais ce n'est pas possible. c'est le publicain qui est justifié. Alors que l'autre, il va tout le temps au temple, il fait tout ce qui est bien, mais c'est le publicain qui est justifié. D'un côté, ça déstabilise, on se dit, mais tiens, mais à quoi ça sert d'aller tout le temps au temple? Oui, ça sert d'être dans la présence du Seigneur, parce qu'on en ressort fortifié. Mais quelle est l'attitude? C'est ça qui compte. Mais en même temps, nous les petits, nous les faibles, quand on lit ce texte, on saute de joie. On dit, oh, même le faible peut être justifié. Même le petit peut être sauvé. Nous qui sentons l'action de la chair en nous, où nous sentons la réalité de la chair en nous, quand nous lisons ce texte, on dit, oh, pourquoi rester païen, puisque même le mauvais peut être sauvé. Autant entrer dans le salut. C'est la bonne nouvelle. Quand tu lis ce texte, quelle est ta réaction? Certains sont déstabilisés de voir, mais tiens, tout ce qu'on fait, ça ne compte pas. C'est faux. Ça compte. Parce qu'il est écrit, les œuvres des saints le suivront au ciel. Mais si l'attitude ne va pas avec ce que tu fais, ça ne compte pas. C'est l'attitude. Et au-dessus de l'attitude, on ajoute tout ce qu'on veut. Mais l'attitude compte. Est-ce que c'est tu viens chercher Dieu? Est-ce que c'est Dieu que tu cherches ou tu sais déjà ce qu'il y a à faire? Il faut prier, il faut faire ceci, comme dans certaines églises. D'abord, on commence par se repentir. Ensuite, on fait ceci. On appelle ça la liturgie. Ensuite, on fait cela. Ensuite, donc, on sait ce qu'on a à faire pendant le culte. Et c'est bon. Non. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Mais il y en a qui ne sont pas déstabilisés. Il y en a quand ils lisent, ils disent, ah, je n'ai plus à m'inquiéter. C'est fini. Je peux être sauvé. Parce que si le publicain est sauvé, vous savez, beaucoup d'entre nous, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous accusons nous-mêmes. Et aussi, les esprits mauvais nous accusent aussi. Il est écrit que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Mais quand on lit que ce monsieur qui était publicain a été justifié, on se dit, mais oh, même moi qui suis mauvais, peut-être justifié. Je vais en profiter. C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup se condamnent. Ah, mais je ne suis pas ce qu'il faut. Oui, mais Dieu, il est venu justifier le coupable. Il n'est pas venu justifier l'innocent. Donc si tu es innocent, je pense que tu te trompes. Tu n'es pas innocent, donc c'est ton orgueil qui te fait croire que tu es innocent. Maintenant, si tu es coupable, sache que la justification est possible. On a un avocat qui justifie les coupables. Sur la terre, les avocats cherchent à justifier celui qui est innocent. Même s'il est coupable, ils cherchent à démontrer qu'il est innocent. Mais nous, on a un avocat qui ne cherche que les coupables pour les justifier et pour prendre leur péché en son compte. Dire, je prends sa culpabilité, maintenant toi tu es libre. Mais pour cela, il faut l'attitude de s'humilier, de dire, Dieu, sauve-moi. Je m'abandonne à toi. Je ne veux plus de la vie du monde. Je ne veux plus me contrôler. Je ne veux plus me gérer. Je veux que tu prennes tout. Parce que mon salut passe par le fait que tu prennes tout. Parce qu'on ne peut pas être sauvé un tout petit peu et puis pas l'autre. Donc tu prennes tout. Seigneur, prends tout. Et c'est des gens qui sont justifiés. Abraham, c'est écrit dans Genèse 15, 6. Abraham crut en Dieu et celui-là lui fut imputé à justice. Donc on a considéré Abraham juste, pas parce qu'il marchait correctement, mais parce qu'il crut en Dieu, parce qu'il a dit à Dieu, je t'abandonne ma vie. Dieu lui a dit, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Il ne savait pas, il est parti parce qu'il avait donné sa vie à Dieu. C'est ça qui l'a rendu juste. Beaucoup se consolent en disant, je fais ceci, je fais cela. Et les autres ne font pas comme moi. Les autres sont parfois extrémistes, ils exagèrent. Moi, je suis stable, je suis équilibré en Christ. Non, ce n'est pas tout ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est qu'est-ce que Jésus dit de toi. Comment Jésus prend ta vie en charge. C'est ça qui sauve. C'est ça qui permet la justification. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Et le publicain qui venait, Seigneur, aie pitié. Je donne ma vie. Il a été justifié. Bien-aimé, aujourd'hui, toi qui entends ça, quelle est ta réaction? Tu veux continuer à te justifier toi-même ou tu veux laisser Dieu te justifier, prendre soin de toi? Ceux qui résistent, ceux qui sont dans l'orgueil, Dieu va leur résister. Ceux qui vont s'humilier, Dieu va leur faire grâce. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à le chercher, lui, et non pas à l'amener, lui, dans nos projets à nous. On doit dire, Seigneur, chaque jour, je me confie en toi. Conduis-moi. Je me livre à toi. Ceux qui n'ont pas encore fait de contrat de salut avec Dieu, vous attendez quoi? Comme ce musicien du monde, le dernier album, avant de vous convertir. Vous attendez quoi? Ce publicain est parti vers Dieu lui dire, « Je suis mauvais. » Quelle bonne nouvelle de pouvoir aller dans un tribunal et tranquillement dire ses péchés, c'est ce qu'on a fait. J'ai cambriolé, j'ai volé, j'ai fait ceci. Et c'est un tribunal d'où on sort justifié. Mais c'est la bonne nouvelle. Mais comment fuir un tel Dieu? Comment traîner? Il y en a qui disent, oh, si je m'engage aujourd'hui, ce n'est pas sûr que dans 6 mois, je reste toujours dans la vérité, je risque de tomber. Mais tu ne connais pas le Dieu à qui tu as affaire. Il te dit, livre ta vie, moi je vais m'occuper. Et moi, je suis le Tout-Puissant. C'est ainsi qu'il est écrit dans 1 Jean 4:4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu étais dans la religion, abandonne et donne ta vie à Jésus. Si tu étais dans la propre justification, mais tu n'étais pas encore à Christ, sache que tu n'es pas juste. Personne n'est juste. Romains 3:10 dit qu'il n'y a personne qui est juste. Il n'y a que Dieu lui-même qui est juste et qui peut justifier le pécheur. Tu n'es pas juste, tu es coupable, comme nous tous. Viens auprès de celui qui justifie et confie ta vie à lui. Voilà, confie ta vie. On ne peut pas être justifié si on ne confie pas sa vie. On ne peut pas dire au médecin, je veux que vous m'opériez l'estomac, mais je ne veux pas que je sois endormi. Je ne veux pas d'anesthésie. Mais le médecin dira, mais ça va être trop douloureux, ce n'est pas possible. Vous allez vous agiter, vous allez empêcher l'opération. On est obligé de vous endormir. Donc on ne peut pas dire, Dieu, je veux que tu me changes, mais je vais contrôler ma vie moi-même. Non, on ne peut pas. Soit on livre à Dieu toute la vie ou pas. Vous voyez, beaucoup, surtout en France, ont un grand problème. C'est de s'abandonner à Dieu. Ils veulent toujours contrôler le domaine de l'argent, surtout. Le domaine de la sécurité sociale, le domaine de l'emploi. C'est un grand mal en France où les gens sont incapables de livrer leur vie à Dieu parce qu'ils ont peur du lendemain. C'est vrai, la France, c'est le premier pays pessimiste au monde. Quand on fait les sondages, c'est le premier pays pessimiste. Et les gens ont un problème de relation avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas abandonner ces domaines-là. Ils sont comme les jeunes hommes riches. Ils disent, bon, je viens déjà à l'église, c'est bon, mais me demander encore d'être comme pauvre, alors que moi je suis riche, ça c'est trop me demander. De me demander d'être sans emploi, moi un Français, c'est trop me demander. Non, c'est possible avec Jésus. S'il nourrit les oiseaux, il peut nourrir aussi un Français. Toi qui as un passeport, Jésus ne va pas te nourrir. Alors que l'oiseau n'a pas de carte d'identité. On a un problème, c'est ce problème-là avec lequel nous devons lutter en France. Le problème de la sécurité matérielle qui empêche les gens d'être humbles vis-à-vis de Dieu parce qu'ils ont leur sécurité. Dieu ne devient qu'un complément. qui les empêche aussi de se livrer pleinement parce que ça les met en insécurité. Mais c'est une insécurité voulue par Dieu pour que nous marchions par la foi et que nous vivions des grandes choses. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas faire des grandes choses. Ce n'était qu'une parenthèse. La conclusion est la suivante. Il faut se livrer à Dieu et non pas croire à sa propre justice, en ses propres raisonnements. Si nous nous livrons à Dieu, il s'occupera de nous aujourd'hui et demain. Et on est justifié. On ne connaît pas l'avenir. Il est écrit, c'est le jour du salut. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ta vie au Seigneur aujourd'hui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien.
Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Alors, ne te dis pas dans ton cœur, ah, si seulement un tel peut s'abandonner aujourd'hui. Non, c'est toi qui dois t'abandonner au Seigneur. Entre
tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle.
Comme le publicain. À passer devant, nous allons prier ensemble.